J'ai fait mes études à partir de à Grenoble. J'ai fait l'ENSIMAG. Ensuite, j'ai fait une thèse à Grenoble aussi. Ensuite, j'ai été travailler aux États-Unis à Stanford un certain temps. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 4-5 ans. Et puis après, je suis revenu à Grenoble et je suis rentré au CNRS. Et j'ai d'abord travaillé à un laboratoire qui s'appelle Leibniz, qui est au centre-ville. Et puis maintenant, je suis à Gravir, donc.
Mais en même temps, vous êtes chercheur CNRS.
Ça, c'est une organisation générale à Grenoble. Donc, il y a un certain nombre de laboratoires. Donc, j'ai cité Leibniz, il y a Gravir, il y en a plein d'autres. Et ces laboratoires ont des tutelles. Donc, Gravir a quatre tutelles, qui est l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, le CNRS, donc Centre National de la Recherche Scientifique, et puis l'UJF, l'Université Joseph Fourier, et l'INPG, l'Institut Polytechnique. Et les gens qui travaillent dans ces laboratoires proviennent des différents horizons. Et par exemple, moi je suis CNRS dans les locaux de l'INRIA. Donc Gravir, c'est un laboratoire qui a trois axes de recherche. Le graphisme, donc tout ce qui est synthèse d'images pour les jeux, pour la vidéo, pour les films d'animation, etc. Donc ça, c'est un grand axe. Il y a un deuxième axe qui est la vision. Donc c'est un petit peu l'inverse du précédent, c'est-à-dire que il s'agit à partir d'images venant de la vidéo, par exemple, ou éventuellement même photographique, de rechercher des informations dans ce flux d'images, si c'est de la vidéo, ou dans des bases de données d'images. Donc, je sais pas, pour donner des exemples, on peut faire chercher à partir d'une image de vidéo à faire du tracking, à suivre les gens. Et puis le troisième axe, c'est la robotique. Donc là, il s'agit de faire agir des systèmes mécaniques pilotés par des ordinateurs et qu'on essaye de rendre le plus intelligent possible. Dans les locaux de l'INRIA, il y a 500 personnes. Au laboratoire Gravir, 150. Et entre les trois grands axes, ça doit se répartir à peu près équitablement, un tiers, un tiers, un tiers, quoi. Dans l'axe robotique, il y a plusieurs sous-domaines suivant le type de robot auquel on s'intéresse. Donc, ça peut être des bras, ça peut être des robots mobiles, ça peut être des voitures, ça peut être des humanoïdes qu'on cherche à faire marcher. Alors, c'est en grande partie piloté non pas par des applications, mais par des problèmes qu'on se pose. Donc typiquement, là, on est en train d'essayer de faire, donc c'est en plus dans une collaboration avec des gens des sciences de la vie, dans un projet européen, on est en train d'essayer de faire un robot mobile qui ait des comportements inspirés de ceux d'un chien. Donc poursuivre une proie, être capable de retrouver sa niche, être capable de trouver l'endroit où il va boire, ça va être en gros une prise électrique pour lui, être capable de détecter ses prédateurs, de se défendre contre ses prédateurs ou de s'enfuir, être capable de repérer son maître et d'obéir à un certain nombre d'ordres très simples de ce maître.
Et la différence avec le robot chien que Sony avait présenté il y a quelque temps?
On se pose pas du tout le même problème que Sony. Donc Sony se pose le problème du contrôle moteur bas niveau pour être capable de se déplacer. Par contre, en gros, ils savent pas résoudre de problème, quoi. Enfin, le chien de Sony, je sais pas, ils ont essayé de le faire jouer au football, là, aux compétitions de football. C'est affligeant, quoi. C'est-à-dire que il se déplace très bien, mais quand par hasard il donne un coup de patte dans la balle, tout le monde est super content. Mais c'est normal d'une certaine manière, je ne reproche pas du tout ça à Sony, c'est pas le problème qui se posait. Et donc nous on est un petit peu à l'opposé, on prend des robots beaucoup plus simples d'un point de vue moteur, parce que à partir du moment où on a des pattes ou des bras, il commence à y avoir beaucoup plus de commandes à contrôler, c'est un problème difficile. Alors les bipèdes, n'en parlons pas, parce qu'en plus, eux, ils sont pas équilibrés naturellement, donc il y a une espèce d'équilibre perpétuel à trouver. Donc on prend des robots à roues, ça c'est simple. Quand on dit que tout s'arrête, le robot se casse pas la gueule, il reste bien stable, ça déjà c'est rassurant. Et par contre, on essaye de lui, on étudie le côté comportemental, quoi. On essaye de lui faire avoir la partie comportement du chien. Évidemment, l'idéal, ça sera si un jour on arrive à réunir un petit peu les deux. Mais enfin, faut pas non plus s'enflammer ou ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'on est même là très loin d'être capable de faire un chien robotique.
Donc là, on entre dans la salle des machines, vous allez nous présenter quelques robots.
Donc, il y a un tout petit qui est haut comme ça, c'est-à-dire à peu près 5 cm et qui fait 2,5 cm de diamètre. Donc, c'est en étage. Donc, il y a une petite base avec deux roues et puis les moteurs. Et puis, au-dessus, on peut empiler diverses couches, une petite pince, on peut empiler une petite caméra linéaire, éventuellement deux petites caméras. Enfin, il y a diverses couches possibles. Alors, après, il y a son grand frère. Donc celui-là qui est nettement plus gros peut emporter des grosses batteries, de la puissance de calcul. Donc lui il a plein de choses, il a des capteurs infrarouges de distance, des capteurs infrasons de distance, capteurs laser de distance. Il a deux ordinateurs qui sont embarqués dans le corps, il y a un ordinateur portable qui vient sur le dessus. Et puis il a aussi il a une liaison internet radio, donc qui lui permet de transmettre de l'image, des données par radio. En fait, on cherche à lui faire apprendre et à se comporter un peu comme un petit animal. Donc la personne là-bas devant l'écran, elle est en train de lui faire un petit habillage pour qu'il ressemble. Donc il va avoir un petit museau et puis il va avoir un habillage sur le côté avec je sais pas quoi, de la fourrure ou quelque chose comme ça. Pour qu'on comprenne au premier coup d'œil ce qu'on cherche à faire, quoi.
Qu'on ne voit pas simplement un amas de fils et de
Voilà.
connecteurs.
Et l'idée c'est de voir un peu les deux en même temps, quoi. Alors encore la taille au-dessus, c'est ces petites voitures de golf là, qui sont utilisées pour faire différentes expériences de conduite automatique sur le parking, faire des créneaux tout seul, suivre d'autres voitures, éviter des piétons, enfin circuler dans le parking de manière la plus autonome possible. Et les gens qui le font ont relativement confiance parce qu'ils ont leur voiture juste à côté. Bon, il n'y a pas trop de problèmes en général. Voilà un peu pour le tour.